Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et on retrouve tout de suite l'émission Petite Consultation entre amis.
Petite Consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons l'actualité pour une émission spéciale. T'as de beaux yeux, tu sais. Dans laquelle nous parlerons des bons plans pour les yeux. Ce sera l'astuce santé-bonheur. On reviendra avec la piqûre de rappel sur les premières lentilles de contact. On parlera évidemment des infos qu'il faut. Et lire dans le noir abîme-t-il les yeux? C'est la question existentielle de la semaine. Le mot du médecin est chalazion. Et on parlera évidemment du pire du forum avec la question de Keke 63, se mettre de la vodka dans les yeux pour être bourré, est-ce une bonne idée? On se quittera avec les temps attendus, bref, de salle d'attente à vos stéthoscopes. La consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris. Alors comment allez-vous l'équipe des docteurs, docteur Marion?
Ça va bien.
Ça va bien, ouais, cette ouais, journée du 30 janvier.
Cette journée du 30 janvier est fabuleuse, un samedi agréable
un
et reposant.
Un samedi agréable et
doux
reposant.
Doux et agréable, ouais.
Doux et agréable, docteur Léo, comment allez-vous?
Moi ça va bien, ouais.
Vous avez tous des beaux yeux aujourd'hui?
Oui.
On en parle.
On a mis les meilleurs, moi j'ai choisi les meilleurs.
Moi j'ai mis mes lentilles cosmétiques, hein. J'ai les yeux bleus aujourd'hui.
Vous êtes magnifique, en tout cas pour les auditeurs qui ont l'image. Et alors avant de parler des yeux, eh bien on se fait un petit tour de l'actu. Santé.
Et on commence cette semaine par le virus Zika qui se propagerait à toute vitesse.
Effectivement, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui vient de le dire. Le virus Zika se propage de manière explosive. Interrogée par nos confrères de France Info ce jeudi matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait été on ne peut plus claire. Attention, je vous imite Marisol Touraine. Dans des cas limités, la maladie peut être très grave avec des effets neurologiques pour les femmes enceintes, des complications, des malformations pour leur bébé, des femmes qui sont en métropole sur le territoire français et qui ont prévu d'aller en Guyane, en Martinique et dans les territoires d'outre-mer, si elles sont enceintes, je leur recommande de différer leur voyage.
Il y a un enjeu de santé publique.
Elle parle bien, Marisol.
Bravo. Alors, les risques sont surtout pour les bébés à naître, c'est ça?
Et effectivement, docteur Marion, le virus, lui, est transmis par le moustique de type Aedes. Ah, c'est assez insupportable ce bruit du moustique. Bon, alors, si dans la plupart du temps, c'est sans gravité, lorsqu'il est contracté par la femme enceinte, la situation médicale peut vite devenir alarmante. Zika pouvant entraîner de graves malformations neurologiques telles que la microcéphalie, c'est-à-dire des boîtes crâniennes et des cerveaux particulièrement petits. Alors, c'est pas votre cas, hein, rassurez-vous. On ne sait pas.
Répondre à cette attaque.
Dans certains cas, ces lésions peuvent même entraîner la mort des enfants touchés. Alors aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud qui se bat contre la maladie et la psychose atteint son comble dans les pays comme le Brésil. En effet, c'est là-bas que le virus a fait son apparition la plus fracassante, avec aujourd'hui 3448 cas de microcéphalie chez des nourrissons qui ont été recensés et sont suspectés d'être liés à la maladie. Devant le risque encouru par les femmes enceintes, certains gouvernements ont même recommandé aux couples désireux d'avoir un enfant, de reporter leur projet de grossesse. C'est le cas de la Colombie, du Salvador, de l'Équateur, du Brésil et de la Jamaïque. Un conseil radical, voire difficile à appliquer, mais qui traduit l'inquiétude des pouvoirs publics.
Et l'épidémie risque de continuer de s'étendre, non?
Oui, c'est assez attendu. Devant la rapide progression de l'épidémie, les ministres de la Santé latino-américains ont rendez-vous la semaine prochaine en Uruguay pour prendre des mesures face à la propagation du virus. L'OMS a quant à elle déclaré que l'épidémie allait continuer son avancée. Des cas ont ainsi été diagnostiqués en Europe chez des patients ayant voyagé en Amérique du Sud, de quoi entretenir l'inquiétude des autorités sanitaires et des populations. Mais donc au final, pas de psychose face à Zika, mais prudence si vous êtes enceinte et que vous vous rendez dans une zone concernée par le virus.
Ok, deuxième actu de la semaine, le sans gluten n'est pas forcément meilleur pour la santé.
Alors effectivement, docteur Marion, en tout cas, c'est une étude du magazine 60 millions de consommateurs qui en parle cette semaine.
Mais au fait, le gluten, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, je vous pose la question, docteur Marion. Le gluten, c'est un mélange de protéines contenues dans le blé. Et le blé, il y en a partout. Le pain, les pâtes, tous les aliments à base de farine de blé, bref, un vrai casse-tête pour toutes les personnes qui souffrent d'intolérance. Mais ces malades, s'ils existent bel et bien, sont nettement moins nombreux que ceux qui ne mangent pas de gluten. Si l'on compte environ 5 millions de personnes qui ont adopté ce régime, seulement 1% des Français seraient victimes d'une véritable intolérance au gluten, ce qu'on appelle nous dans le milieu la maladie cœliaque. Un delta qui mérite qu'on se penche sur le bien fondé des aliments sans gluten.
Donc le verdict.
Alors verdict contre toute attente, manger sans gluten n'est pas forcément meilleur pour notre forme, comme le révèle la simple lecture des étiquettes. Nos confrères ont découvert que certains de ces produits étaient bourrés d'additifs en comparaison avec leurs homologues contenant du gluten. Ainsi, une abeste de pâte brisée, croustipâte sans gluten, ça donne faim tout de suite, contenait 15 ingrédients dont un tiers d'additifs, comme le E464, le E330, dont quand la pâte classique Marie, qu'on salue, hein, on ne sait pas si elle vous écoute, la pâte Marie, contenant elle du gluten, ne comportait que 6 ingrédients sans aucun additif. En fait, c'est en effet le gluten qui donne son élasticité à la pâte et il faut donc rajouter des ingrédients pour reproduire cet aspect et pouvoir la retravailler. Donc ces aliments sont ainsi sans gluten, certes, mais bourrés de produits chimiques.
Ok, donc au final, des produits moins riches et plus chers, quoi.
Voilà, exactement. D'autre part, ces aliments sont également beaucoup moins riches sur le plan nutritionnel. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils sont bons pour la ligne. Ils sont notamment très pauvres en protéines, et cela à chaque fois qu'ils sont comparés à des aliments contenant du gluten. Ainsi, 100 grammes de pain de mie marque repère Édouard Leclerc. Allons un peu en Bretagne. Sans gluten contient 2,6 grammes de protéines contre 8,3, toujours pour la marque repère Édouard Leclerc, Épidore, selon toujours ce fameux dossier de 60 millions.
Mais vous êtes payé par qui,
mais par Michel Édouard Leclerc, évidemment. Non mais voilà, en tout cas, quand on compare eh bien, tout simplement le taux de protéines, le grammage de protéines, eh bien, on a beaucoup plus de protéines chez les aliments avec du gluten.
Et Catherine, qu'est-ce que c'est que tout ce gluten que tu mets dans ton assiette, dans ton caddie, dans ton sac?
Mais, non. Mais oui, mais il y en a partout. Alors du gluten, je suis obligée. Qu'est-ce que je peux bouffer?
Du quinoa.
Du quinoa, voilà, nous disent Catherine et Liliane. Bon, en tout cas, pour résumer, sauf indication médicale qui vous interdit le gluten, vous n'avez peut-être rien à gagner sur ce terrain et beaucoup à perdre sur celui du porte-monnaie. En effet, les produits sont en question sont 2 à 2,5 fois plus chers que les aliments classiques. Et n'oubliez pas, sur le plan nutritionnel, moins c'est transformé, meilleur ce sera pour votre santé. À bon entendeur, c'était les
Salut.
Actus. Et on danse au son de Ricazaray dans le studio et on vous écoute, docteur Marion, nous parler. Alors toujours cette thématique, t'as de beaux yeux, tu sais.
On
aime beaucoup. Docteur Léo, vous pourriez imiter Jean Gabin?
Bon, tout de suite,
quand même. Allez, entraînez-vous.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Ah, c'est classe. Ah ouais, moi j'y arrive pas. On va le prendre en jingle. Donc dans cette thématique, docteur Léo.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Donc on retrouve l'astuce santé bonheur et notamment sur les lunettes.
Tout à fait. Cette semaine, parce qu'on est dans les binocles, ma petite astuce va vous permettre d'éviter de vendre vos yeux pour cet accessoire qui vous permet de ne pas être une taupe.
Oh, très drôle.
Eh oui, les lunettes c'est cher, mais pas que. On a enfin trouvé des opticiens qui veulent pas s'en mettre plein les fouilles. Chers étudiants, chers parisiens qui vivaient en comptant le moindre euro pour subsister dans cette ville onéreuse, voilà quelques solutions. Pour commencer, il est important de vous rappeler qu'un renouvellement d'ordonnance optique ne se fait pas obligatoirement chez votre ophtalmo. Et oui, si votre vue ne bouge pas et que votre ordonnance a moins de 3 ans, votre opticien ou votre généraliste peut vous la refaire.
Exactement, alors ça c'est la bonne info, le médecin généraliste peut refaire l'ordonnance pour avoir le remboursement pour la sécurité sociale.
Tout à fait. Donc un vrai gain de temps quand on sait qu'il faut en moyenne 2 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Par ailleurs, si vous n'êtes pas particulièrement fan des lunettes de grande marque, vous pouvez trouver des lunettes à moindre coût. Et oui, des enseignes comme Lunettes pour tous, qui ont plusieurs boutiques en France et à Paris, vous permettront dans un espace-temps très réduit, des fois dans 20 minutes, d'obtenir des lunettes qui tiennent la route et qui sont à votre vue. Sur internet aussi, vous retrouverez sur des sites comme www.lusinealunettes.com un concept où les lunettes sortent directement de l'usine pour arriver jusque chez vous, ce qui veut dire pas de marge prise par les intermédiaires. Bref. Et puis pour ceux qui sont un peu écolos et un peu extravagants sur les bords, vous allez être heureux d'apprendre que les lunettes fabriquées à base d'algues, messieurs, dames, eh oui, existent. Vous pourrez retrouver ce concept franco-français et même breton, on en est fiers, disons-le, sur le site de la marque qui s'appelle Naoned, donc N-A-O-N-E-D, Eyewear.
Ah, j'adore quand vous parlez. Alors, est-ce que c'est du breton, breton-anglais un peu,
voilà,
quoi?
Voilà, exactement.
Très bien. C'est du breton-anglais, quoi.
Voilà, donc vous pouvez taper Naoned ou alors lunettes à base d'algues. Vous allez les retrouver. En tout cas, c'est www.naonedeyewear.bzh.
.bzh. Alors, on n'a jamais des adresses en .bzh.
Mais bien sûr que si.
Mais vive la Bretagne,
le domaine,
moi.
Le domaine BZH vient de sortir, qui veut dire Braise, c'est-à-dire Bretagne. Voilà.
Petite consultation, c'est toujours l'émission santé en Bretagne.
Bienvenue, n'hésitez pas à nous envoyer via notre Facebook vos photos avec vos algues sur le nez. Hein.
Avec les algues sur le nez, ça fera plaisir, quoi. Allez, toujours une petite consultation à notre ami et on écoute la piqûre de rappel, Léo.
Allez, c'est parti.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse
de France. Je suis sûr qu'il
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier, vous l'avez entendu. T'as de beaux yeux, tu sais.
T'as de beaux yeux, tu sais.
T'as de beaux yeux, tu sais. La thématique de cette émission, on écoute justement la voix du docteur Léo, cette voix caverneuse de la médecine française. Et vous nous parlez aujourd'hui du jour où on a inventé les lentilles de contact. Et c'était en 1508, si je ne m'abuse.
Peut-être. Mais effectivement...
On me donne des fausses dates...
Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un peu le suspense. Donc, effectivement, poser directement une correction sur ce petit hublot transparent à la surface de l'œil qui est la cornée est une idée assez ancienne qui remonte au début du XVIe siècle. Alors c'est Léonard de Vinci, toujours dans les bons coups, qui en a l'idée, ou tout du moins qui semble coucher le premier celle-ci sur le papier dans son codex de l'œil de 1508. Donc ça remonte un peu, et c'est un peu la classe aussi.
Fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou.
Et oui, car en réalité, cette histoire de filiation entre l'invention des lentilles et Léonard de Vinci, qu'on trouve beaucoup sur Internet, est surtout folklorique. Dans le Codex de l'œil, le génie de la Renaissance décrit de façon théorique une technique qui n'avait pas vraiment vocation à corriger la vision, mais dont l'objectif était de tester les mécanismes d'adaptation de l'œil, et ce, afin d'expliquer le fonctionnement de la perception visuelle. Il serait donc erroné d'y voir l'illustration du principe des lentilles. Il n'est pas encore présent le but, améliorer la vue, corriger une vision défectueuse. On est plus dans des spéculations théoriques sur la perception visuelle, bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, on retrouve René Descartes qui va penser un mécanisme pour effectivement modifier la vue à appliquer directement sur l'œil. L'idée est de poser un petit éclat de verre rempli d'eau sur l'œil, mais là encore, le but n'est pas celui de la lentille, mais plutôt de permettre de voir le loin de près, un peu comme avec une lunette astronomique. Et surtout, l'idée de Descartes est totalement irréalisable, puisqu'il n'y aurait pas été possible de fermer l'œil. Donc c'est bien, mais pas top. Deux siècles plus tard, c'est finalement un ophtalmologiste allemand, Eugène Fick, qui traduit l'idée en réalité avec les premières lentilles de contact tolérables en septembre 1887. Au départ, celles-ci sont en verre, donc rigides, assez incommodantes, grandes, lourdes, et il fallait les humecter très souvent. Donc il n'était possible de les porter que simplement quelques heures. Mais invention réussie tout de même.
Ah oui, 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 oui! Oh là 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 là!
Ouais, oh là 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 là, et on continue notre tour du monde avec un Américain, William Fenblung, qui conçoit les premières lentilles en plastique en 1936, et ce qui permet au dispositif un plus grand confort malgré le fait qu'il demeure du coup rigide. Un autre problème, c'est que pendant longtemps, les lentilles n'étaient pas perméables à l'oxygène. Du coup, pour simplifier un peu, ça asphyxiait l'œil. C'est pas terrible. À partir des années 60, beaucoup de chercheurs vont s'intéresser à ce problème pour le solutionner avec notamment l'introduction des lentilles souples et plus perméables, faites en hydrogel puis en silicone. Et au final, aujourd'hui, il existe une multitude de types de lentilles, plus ou moins souples, plus ou moins rigides, jetables, non jetables, correctrices, thérapeutiques, cosmétiques, et elles sont portées par 4 millions de Français et Françaises 500 ans après les premières intuitions de Léonard de Vinci.
Ah, c'est beau, docteur Léo. Hommage à Léonard. Merci, docteur Léo, en fait, pour cette... Léonard, je viens de m'en rendre compte à l'instant.
Incroyable.
Léo, tu aurais-tu une filiation? On ne sait pas, c'est cool. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on écoute notre première page de musique sur Radio Campus Paris, avec un chanteur, j'ai envie de dire, aussi talentueux qu'aveugle. Allez, classe, celle-là. Allez, c'est Ray Charles, It's the Road.
Oh, woman, oh.
seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back.
Oh,
no more.
Now, baby.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est une excellente idée 93.9 et vous retrouvez petite consultation entre amis et avec les infos qu'il faut.
Quoi de neuf, docteur?
Alors, quoi de neuf, docteur Marion, des journées mondiales à n'en plus finir pour la semaine qui arrive?
Exactement, cette semaine, de nombreuses journées mondiales. Et pour commencer, la journée mondiale des lépreux. Oui, docteur Loïc, la journée mondiale des lépreux est cette année organisée le 30 janvier. Ce qui veut dire exactement, eh bien, aujourd'hui et demain, parce qu'en fait, ça dure tout le week-end.
Tout le week-end, ouh, d'accord, une journée mondiale sur deux jours.
Exactement, c'est un week-end mondial.
Un week-end mondial, allez.
Tout à fait. Donc, ça change chaque année, hein. La date, ne retenez pas le 30, voilà, puisque c'est toujours le dernier week-end de janvier. Bref. Cette journée mondiale me permet de vous rappeler que cette maladie ancienne n'a pas disparu, même si elle a fortement décliné en Europe depuis le 18e siècle. Cette maladie qui touche les nerfs, la peau et les muqueuses continue de toucher de milliers de personnes, en Afrique et en Amérique du Sud particulièrement. En 2012, l'OMS recensait 200 000 nouveaux cas. Cette maladie fait peur car elle est visible sur les patients atteints et donc les exclut de la vie sociale. Malgré le traitement existant, la difficulté avec la lèpre est de la diagnostiquer car la durée d'incubation est longue. Cela rend donc difficile sa disparition totale.
Deuxième journée mondiale, c'est la journée mondiale du cancer. Enfin, contre le cancer, pas du
cancer.
Contre le cancer, et c'est le 4 février.
Tout à fait, c'est jeudi prochain. Effectivement, triste journée, car c'est la première cause de mortalité de nos jours dans le monde. L'intérêt de cette journée, c'est bien sûr de prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce qui permet d'arriver jusqu'à la guérison.
Exactement. cette petite phrase qui disait nos professeurs d'oncologie, le temps perdu en oncologie, malheureusement, ne se rattrape jamais.
Voilà, ça c'est une belle phrase. L'OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015, ce qui est énorme. Voilà, c'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en œuvre dans le but de faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde.
Et cette semaine, une particularité parce qu'il y a aussi une journée nationale le même jour que cette journée mondiale contre le cancer.
Exactement, j'ai découvert ça en préparant cette petite chronique. Jeudi sera aussi une journée donc nationale sur les DIP.
Les DIP, qu'est-ce que c'est les DIP?
Qu'est-ce que sont les DIP? Ce sont les déficits immunitaires primitifs. En fait, c'est une défaillance du système immunitaire qui peut survenir avec des symptômes dès la naissance, mais qui peut aussi apparaître un peu plus tard dans la vie. En tout cas, avant la dégénérescence classique. Cette journée donc est consacrée à sensibiliser le grand public, mais aussi le corps médical et les malades eux-mêmes à la détection de cette maladie et aux moyens de la traiter. En France, on estime à 200 enfants qui naissent avec le DIP chaque année. Donc cela reste assez rare. En tout cas, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site de l'association Iris, qui est www.associationiris.org.
Très bien. Et le DIP, le déficit immunitaire
primitif.
On aura appris quelque chose, docteur
voilà.
Marion. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces journées mondiales. Et on enchaîne avec notre expression rigolote.
O-D-I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Alors justement, une question existentielle cette semaine, docteur Léo. Lire dans le noir abîme-t-il les yeux?
Ouais, et alors on voit tout de suite venir un peu les esprits chagrins qui vont nous dire « Mais lire dans le noir, c'est pas possible !»
Du français, mais ça n'a pas de sens. C'est peut-être du québécois.
Alors non, ce n'est pas du québécois, il faut lire entre les lignes. Il s'agit bien évidemment ici de savoir si lire dans l'obscurité abîme les yeux. Vous savez, c'est cette phrase que vous disait votre maman à l'époque où on lisait plus de livres qu'on ne passait de temps à regarder des vidéos sur YouTube le soir quand vous étiez confortablement installé sur ou dans votre lit, les yeux plissés, parce que vous n'aviez pas eu le courage d'allumer la lumière tandis que le soleil s'estompe à l'horizon. Et votre mère vous disait « Ne lis pas dans le noir, tu vas t'abîmer les yeux ».
Votre mère, elle parle comme ça.
Non, elle parle pas comme ça.
Vous parlez pas de ma mère comme ça. Vous parlez pas de ma mère comme ça.
Je vous ai déjà dit, on peut pas parler de ma mère dans l'émission. Alors bref, vraiment, est-ce que lire dans le noir abîme les yeux ? Eh bien non, donc dommage, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas lire le bouquin que vous a acheté votre grand-mère pour Noël, ou le docteur Loïc d'ailleurs. Alors lire dans le noir, ce n'est pas vraiment problématique. Ça n'abîme pas les yeux, en revanche cela les fatigue de façon temporaire, et ce pour deux raisons. Déjà, il faut que l'œil s'adapte à la faible luminosité, ce qui peut prendre un peu de temps. Et pour capter le plus de lumière possible, la pupille se dilate et concède un effort supplémentaire, un peu pour faire le point si on veut, et cet effort peut engendrer une petite fatigue oculaire, voire une migraine. En plus, vos paupières clignent moins, votre œil est donc plus sec, cela rend également la lecture un peu plus difficile. La situation est un peu désagréable, mais vous ne risquez pas de pathologie, encore moins la cécité. Donc dire que lire dans le noir abîme les yeux serait plutôt un stratagème longtemps employé par les parents pour que vous vous couchiez plus tôt, ou tout du moins quand ils le veulent. Et bien aujourd'hui, dans Petite Consultation entre Amis, ils sont démasqués.
Mais alors qu'en est-il du rétro-éclairage, notamment sur des tablettes, qu'on lit de plus en plus sur des tablettes, sur des PC, du coup qu'en est-il de ce fameux rétro-éclairage ?
Et bien à cause différentes conséquences similaires, ça fatigue les yeux, mais cela ne semble pas sur le long terme créer des dommages importants sur votre vue. En tout cas, ce n'a pour l'instant pas été prouvé par des études médicales dignes de ce nom.
Alors petite anecdote pour finir.
Oui, une petite anecdote sur la piraterie. Hein. On a parlé de l'adaptation de l'œil à la lumière ou à l'obscurité, qui peut prendre un certain temps et causer une certaine fatigue oculaire. Et bien c'est pour cette raison que beaucoup de pirates portaient un cache-œil. En fait, il s'agit d'avoir un œil constamment habitué à l'obscurité, et de cette manière, en cas de combat où il faut se réfugier ou se battre dans la cale, on a versé tout simplement le cache-œil, et on profitait directement d'un œil habitué à l'obscurité dans l'affrontement. Alors c'est moins envoûtant qu'une blessure au sabre et en duel sur un ponton en plein Pacifique, mais il faut bien parfois remettre un peu les pieds sur terre.
Enfin, en tout cas, c'est un peu envoûtant avec cette musique là, ça donne envie de partir.
Parce qu'on n'est pas nyctalope.
Eh oui, oh, pas mal, et on fait le lien. Exactement, on en avait parlé dans le mot nyctalope, et justement, est-ce que ce serait pas le moment, docteur Marion, de reprendre la main avec ce mot de la semaine ?
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Et donc le mot du soir, et le mot de la semaine, c'est chalazion.
Tout à fait, chalazion, parce que comme on a déjà parlé de nyctalope, du coup on va parler de chalazion cette fois-ci. Donc le chalazion, puisque c'est un nom masculin, qui vient en fait du grec chalaz, qui veut dire grêlon.
Ouh, sympa, salut. Ah la vache, ça chalaze vachement aujourd'hui. Ah ouais, dis donc.
C'est ça, c'est un temps.
Ah, hein. Je me suis pris une averse de chalaze, moi, en venant. Merci. Hein.
Sympa.
Les chalazes de Mars.
Et c'est bon, docteur Loïc.
Merci, docteur Loïc. Je peux finir ma chronique ?
Pardon, je vous en prie.
Voilà. Donc, c'est qu'est-ce qu'un chalazion ? C'est l'inflammation et l'enkystement d'une ou plusieurs glandes de Meibomius au niveau de la paupière. Et vous allez me dire, docteur Loïc.
Mais qu'est-ce que c'est que ces glandes de Meibomius ?
Tout à fait. En fait, ce sont des glandes sébacées très simples qui sont annexées au poil et qui lubrifient en fait le canal de ce dernier dans la paupière. Enfin, bref, un peu compliqué. Tout ça.
Bon, concrètement, ça ressemble à quoi un chalazion ?
Alors, le chalazion forme en fait une petite boule de consistance assez ferme située sous la peau et pouvant être douloureuse en fait sur la paupière. Il se forme lorsque le petit canal qui draine cette fameuse glande se bouche.
Alors ça vient d'où exactement ?
Alors comment est-ce qu'on en arrive là ? Alors, peu de médecins finalement parviennent à identifier l'origine du chalazion, car celle-ci est assez floue. En fait, il y a plusieurs hypothèses, mais rien de bien concret pour vous le dire. Je vous laisserai donc, chers auditeurs, en choisir la meilleure. Donc on soupçonne les allergies, la pollution atmosphérique, ou encore un acarien qui est un parasite de ces fameuses glandes sébacées, ou encore une mauvaise hygiène oculaire. Pour ma part, je ne savais pas qu'on parlait d'hygiène oculaire. On peut conseiller donc un nettoyage quotidien.
Un petit nettoyage.
Voilà. En tout cas, comment faire pour que éviter tout ça, c'est dans un premier temps une hygiène corporelle qui vous facilitera la vie, c'est-à-dire changer vos draps régulièrement, vos têtes d'oreiller, vous laver les mains, et on ne le répétera jamais assez, c'est important. Pour les plus précautionneux, vous pouvez laver vos yeux. Et oui, il existe du gel nettoyant et des liquides de type collyre et tout ça. Voilà, si malgré tout ça, un chalazion apparaît, il est important de le traiter le plus tôt possible avant qu'il ne s'enquiste. C'est bien là que se trouvera le problème. La meilleure méthode serait la chaleur, a priori, qui va permettre de liquifier le contenu des glandes qui sont bloquées. Vous pouvez le faire en appliquant des compresses chaudes pendant 15 à 20 minutes matin et soir, ou un gant humide que vous avez passé au micro-ondes.
Alors si vraiment, et cette technique ne, si jamais ça ne fonctionne pas, cette technique des compresses chaudes.
Alors si ça fonctionne pas, on commence par aller rendre une petite visite à son ophtalmo qui, on l'espère, ne prendra pas 2 mois pour vous prendre. Voilà, et il va sûrement lui décider d'inciser la paupière pour extraire cette fameuse glande qui subit l'inflammation.
Et juste une petite question, les orgelets et les chalazions, c'est la même chose ?
Eh ben non, en fait le chalazion est une réaction inflammatoire interne alors que l'orgelet a une cause infectieuse. Et il est centré lui sur un cil et situé sur le bord extérieur de la paupière et il guérit d'ailleurs le plus souvent spontanément. Voilà, vous avez tout.
Ah bah parfait, merci docteur Marion en tout cas pour ce mot du médecin. Et eh bien on va enchaîner avec notre forum internet.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Alors cette semaine, on est allé du côté de Kéké63 qui nous demande une demande. C'est évidemment un vrai identifiant. Enfin,
oui. Ça va, tu ne l'as pas inventé.
Exactement. J'ai vu qu'on pouvait se mettre de l'alcool, notamment de la vodka dans les yeux et qu'on devenait plus vite bourré. Nous demande.
Il paraît.
Alors il demande si c'est pas dangereux. Alors merci déjà Kéké pour ta question qui tombe à pic dans notre thématique.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Enfin, plutôt, tu avais de beaux yeux, tu sais. Parce que, bien sûr, on peut se mettre plein de trucs dans les yeux. Hein, de l'alcool, de l'eau de Javel, de la soude caustique, de l'acide à batterie. Mais on risque surtout d'aller... Danser sous les sonnailles des tropiques. Alors, on sait qu'il y a quelque chose de magique. Mais si tu peux éviter d'être aveugle, c'est quand même mieux, Kéké63. Alors, ce que décrit Kéké63, c'est le A-belling, qui consiste à verser de l'alcool directement dans l'œil. Alors, le phénomène A-belling est en train de se faire connaître chez les adolescents du monde entier. Il consiste tout simplement à verser de l'alcool dans l'œil, principalement de la vodka. Et certains affirment que l'ivresse vient plus vite que par des moyens plus classiques.
Mais est-ce que c'est pas plutôt, ils sont déjà tout arrachés, puis ils essaient de boire et bam, hop, j'en mets plein dans les yeux.
Je recherche, je m'en mets celui-ci dans les yeux.
Voilà, alors du coup, ils affirment en tout cas que l'ivresse vient plus vite que par des moyens plus classiques, car l'alcool serait absorbé plus vite qu'en passant par l'estomac. Alors c'est un petit peu chelou quand même cette histoire d'ivresse parce que une seule toute petite partie de l'alcool rentre vraiment dans le système sanguin par l'œil. Donc par contre, ce qui est vrai en revanche, c'est qu'en pratiquant l'A-belling, il est très vite possible de devenir aveugle. Et ça c'est cool. Donc en versant de l'alcool dans l'œil, on risque de brûler l'épithélium, c'est la mince couche de peau qui protège l'œil, ce qui à force peut mener à une infection, à des cicatrices et puis même juste tout simplement à la cécité. Donc Kéké, j'ai envie de dire, hein. Voilà, Kéké, j'ai envie de dire, non au e-belling, tu peux faire une magnifique carrière de chanteur sans même perdre la vue. Alors tout ça, ça me fait penser à une petite blague complètement politiquement incorrecte de des proches qui disait, je cite, un journaliste interrogeant Ray Charles, qu'on vient d'écouter d'ailleurs, hein, ça ne vous rend pas malheureux d'être né aveugle? Et Ray Charles de répondre, oh vous savez, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Elle est très classe.
Belle blague.
Allez, justement, on passe un peu sur nos brèves de salle d'attente.
Enfin, moi, elle m'a manqué la semaine dernière.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Allez, un petit, une petite question. Un site, un statisticien. C'est dur à dire. Un statisticien. Alors, du coup, d'un site de statistiques qui vous donne dorénavant la cause de. Et l'heure de
votre décès.
Exactement. Ah, vous avez vu ce site-là?
Pas mal.
On peut prévoir.
Et on peut prévoir exactement.
Mais sur quoi?
Alors sur le site Flowing Data, ça s'appelle comme ça. C'est un outil interactif qui ressemble presque à un jeu. Vous rentrez d'où vous êtes, la population, etc., votre âge. Et grosso modo, ça fait plein de statistiques en disant les populations américaines mangent un peu plus que nous, donc risquent de mourir de cause de maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et donc c'est calculé à partir de plein de chiffres qui ont été prélevés entre 99 et 2014, ça vous donne l'indication, une cause probable et votre durée de ce qui vous reste à vivre.
Et la cause.
Bah la cause.
Ah, ça c'est génial.
La cause. Exactement.
Comme ça t'anticipes.
Allez, du coup c'est déjà la fin de petite consultation entre amis. Bah on n'a pas le temps de faire d'autres brèves. Rappelons en tout cas que nous sommes. Eh bien, vous pouvez nous réécouter sur radiocampusparis.org juste après nous. L'œil à l'écoute qui a été longuement préparé. Et vous retrouvez également Tropical Club à 19h. On se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse.
Oui, on vous embrasse.
N'hésitez pas à aller sur page Facebook, site internet, etc. Allez, la semaine prochaine. Ciao.
Allez, ciao.
Bonne soirée.